La science, CQFD, Natacha Triou.
Lundi, novembre, il fait froid, il fait moche. Pour bien commencer la semaine, on a ce qu'il vous faut. Une heure d'entretien avec le prix Nobel de physique 2022, Alain Aspé est notre invité. Entre 1980 et 1982, l'expérience d'Orsay d'Alain Aspé est l'une des expériences les plus importantes de la mécanique quantique et peut-être même de toute la physique. Le physicien prouve très clairement que l'intrication quantique est un phénomène observé qui correspond à tout ce qu'avait prédit la physique quantique. Avec ce pionnier, on revient sur cette expérience de pensée chère à Einstein jusqu'à son expérimentation en laboratoire et comment ses travaux ont ouvert la voie à la seconde révolution quantique. L'intricant, monsieur Aspé. Bonjour Alain Aspé.
Bonjour.
Merci d'être réceptif à notre titre. Vous êtes professeur à l'Institut d'Optique, professeur à l'École Polytechnique, directeur de recherche émérite du CNRS et merci d'être là avec nous en direct des studios de France Culture. Cette émission peut se suivre sur les ondes mais aussi sur Twitter, sur notre fil @sciencesqfd. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc de votre parcours Alain Aspé, de votre expérience fondatrice, de vos dispositifs expérimentaux pour résoudre un paradoxe. Nous parlerons d'intrication, d'inégalité de Bell, mais avant tout, le mardi 4 octobre, aux côtés de l'Américain John Clauser, de l'Autrichien Anton Zellinger, vous receviez la plus haute distinction scientifique, le prix Nobel de physique.
The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Physics in equal share to Alain Aspé, Université Paris-Saclay, and École Polytechnique Palaiseau, France. John F. Clauser, J. F. Clauser and Associates, Walnut Creek, California, USA. And to Anton Zeilinger, University of Vienna, they received the prize for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science.
Nous étions nombreux à l'attendre, cette nomination, pour récompenser vos travaux. Vous, Alain Aspé, vous ne y attendez pas, cette nomination ?
C'est-à-dire que je ne m'y attendais pas une année en particulier. Ça fait longtemps qu'on m'avait dit que ça pourrait arriver un jour, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça aurait pu arriver et ça n'est jamais arrivé. Donc je pense que j'avais la sagesse de ne pas attendre une année particulière, dont ça a été une authentique surprise.
Authentique surprise. Alors ce 4 octobre 2022, dans cette authentique surprise, à qui ou à quoi avez-vous immédiatement pensé ?
Ah, difficile à dire, mais sans doute à ceux qui ne sont plus là pour être contents, mes parents, mes professeurs de lycée. Ensuite, sans doute, j'ai pensé, je ne suis pas certain, mais sans doute j'ai pensé à ma femme et mes enfants qui ont dû me supporter dans tous les sens du terme pendant si longtemps. Et puis, je ne sais pas, l'Institut d'Optique, qui est un petit institut et qui m'a permis de faire une expérience qui, lorsque je l'ai commencé, semblait un peu bizarre à beaucoup de laboratoires plus établis, où j'aurais sans doute eu du mal à convaincre que ça valait la peine d'être fait. Alors, j'ai pensé, oui, à l'Institut d'Optique et à la réactivité qu'il offre.
Alors avant de parler de vos travaux, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur votre parcours. Dans une interview pour le journal du CNRS, vous dites « Je suis une très bonne illustration du stéréotype français, celui du jeune provincial qui quitte son petit village de Gascogne pour monter à la capitale ».
Oui, rien à ajouter.
Rien à ajouter. Vous avez été encouragé dans votre parcours ?
Ah oui, parce que mes parents étaient instituteurs. Et donc, les instituteurs, ces instituteurs m'avaient donné la conviction qu'il fallait bien travailler à l'école. Ensuite, c'était des gens qui avaient une croyance fortement établie dans la valeur de la science, dans le fait que la science permet à l'humanité de progresser. Pasteur, évidemment, l'un de ses héros. Et donc ça a été un très fort encouragement. Alors, je n'ai pas eu d'aide familiale sur le plan m'aider à faire les devoirs parce que j'étais au lycée d'Agen et je ne rentrais chez moi qu'à la fin de la semaine. En revanche, j'ai bénéficié de ces anciens lycées, c'était avant l'enseignement de masse, et j'ai bénéficié de ces anciens lycées où il y avait des études avec des surveillants, des pions comme on disait à l'école, qui avaient des licences. Licence de maths, licence de latin. Et donc, on pouvait choisir l'étude en fonction de ce qu'on souhaitait étudier. Ils étaient, je crois qu'on les appelait même des répétiteurs. Donc, l'école fournissait tout le soutien dont on avait besoin. Je ne suis pas sûr que j'en avais un grand besoin, mais enfin, lorsque j'avais un besoin, je le trouvais dans le système.
Enfant, vous étiez déjà fasciné par les sciences.
Ah oui, toujours. Ça ne m'a pas empêché au lycée de suivre la filière classique dont j'ai fait du latin pendant un nombre considérable d'années. J'aimais beaucoup les lettres, mais je n'aurais pour rien au monde raté une heure de science, que ce soit la physique, que ce soit les maths, ou que ce soit même les sciences naturelles. C'était vraiment mon goût.
Alors on raconte aussi qu'enfant, vous démontiez entièrement votre vélo pour en comprendre les rouages, c'est vrai ça?
Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, je continue à démonter les vieux vélos. J'ai des vieux vélos tout rouillés, mais je continue à les démonter, à les remonter. Le problème qu'aujourd'hui, pour trouver des pièces des anciens vélos, c'est pas si facile. Mais on trouve des sites internet.
On parle de votre amour des sciences et des rouages de vélo. Vous identifiez ce qui vous a donné, ce qui vous a orienté vers la physique?
Alors, je pense que j'ai toujours été fasciné par les objets techniques, plus par exemple que par les animaux ou les fleurs. Bon, j'aimais bien les sciences naturelles. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les objets techniques. Donc, quand j'étais petit, dans ce village de Gascogne, il n'y avait pas tant d'objets techniques que cela, mais quand même, il y avait des artisans qui avaient des outils. Et l'outillage des artisans me passionnait. Les outils que les agriculteurs utilisaient, la charrue pour labourer les champs. J'ai toujours été fasciné par les objets techniques. Donc, que dire de plus?
Dans d'autres entretiens, vous citez justement aussi l'importance, on parlait déjà de l'importance de l'école, des enseignants, des pions, vous citez l'importance de M. Hirsch au lycée d'Agen. Vous dites que c'est lui aussi qui vous a donné le goût de cette discipline. Vous avez un souvenir en particulier justement de ce professeur?
Oui, lui c'est... Je crois que le goût, quand même, il commence avec les instituteurs qui, à l'époque, faisaient des leçons de choses. Et je me rappelle, je l'ai déjà cité 10 fois, mais je pense que c'est très important, cette leçon de choses où on mettait du vinaigre sur de la craie de l'époque, c'était du calcaire, au fond d'un bocal, ça dégageait du gaz carbonique, et le gaz carbonique, on nous expliquait, comme il était plus dense que l'air, il restait dans le bocal, et quand on descendait une bougie, la bougie s'éteignait. C'est le genre de choses qui me fascinaient. Et donc, j'attendais avec impatience les cours de physique de lycée. Et donc, j'arrive en première avec ce monsieur Hirsch, qui était un professeur vraiment extraordinaire, qui à l'époque, avec des moyens quand même qui sont loin d'être ceux qu'on a aujourd'hui, arrivait à nous faire des expériences formidables. Il construisait une partie du matériel. Alors, j'ai un souvenir précis qui, en fait, m'a donné l'idée de la méthode que j'ai utilisée pour mon expérience.
Ah.
Il avait un stroboscope. Un stroboscope, vous savez, ça permet de ralentir le mouvement, comme au cinéma, quand on voit les roues des chariots du Far West qui tournent lentement. En fait, c'est parce qu'on stroboscope, donc ça permet de ralentir les mouvements. Et en particulier, il nous a fait l'expérience dite de la corde de Meld, dans laquelle il y a une corde qui vibre, un peu comme une corde de guitare, mais l'amplitude est beaucoup plus grande, et on la voit vibrer très lentement. Et alors on voit que de temps en temps, il n'y a aucune ondulation de la corde. Un peu plus tard, il y a une ondulation de la corde. Encore un peu plus tard, il n'y a aucune ondulation. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu cette image en tête lorsque j'ai eu l'idée de l'aiguillage optique, du commutateur optique qui a servi dans mon expérience.
L'aiguillage optique, alors ça on y reviendra un peu plus tard dans l'émission.
C'est une expérience de M. Hirsch qui m'a donné l'idée.
Les fondements sont là. Alors parmi, vous citez Hirsch, mais vous citez aussi Jules Verne dans vos sources d'inspiration.
Oui, alors Jules Verne, je ne l'ai pas connu, bien que je ne sois pas tout jeune. Oui, Jules Verne, et alors en particulier quand même, un livre très particulier, L'île mystérieuse. L'île mystérieuse, ce sont des savants et ingénieurs américains pendant la guerre de sécession dont le ballon échoue sur une île déserte Et parce qu'ils ont la connaissance des sciences et des techniques, ils vont être capables très rapidement de recréer une véritable civilisation sur cette île déserte dont on reste toujours avec cette conviction que le savoir scientifique et technique permet vraiment à l'homme de ne pas être misérable au sein d'une nature hostile.
Alors Alain Speth, vous faites vos études de 1965 à 1969 à l'ENS Cachan, aujourd'hui ENS Paris-Saclay. En 1971, vous soutenez votre thèse de troisième cycle. À cette époque, vous travaillez sur quoi ?
Je travaille sur l'holographie. J'adore l'optique et il s'agit d'optique classique cohérente. Et je travaille sur l'holographie. Et là encore, ce que j'ai appris à cette époque-là, eh bien, m'a servi récemment dans les dernières années, je dirais sur la dernière expérience un petit peu importante, un petit peu marquante à laquelle j'ai participé. Eh bien, c'est parce que j'avais fait cette thèse au troisième cycle en holographie que j'ai bien compris le réseau désordonné qu'on est capable de faire, qu'on appelle les tavelures laser, le laser speckle. Et en fait, j'ai pensé, dans cette expérience réalisée il y a quelques années, à tout ce que j'avais appris au moment de ma thèse de troisième cycle. J'adore empiler dans un coin de ma mémoire des phénomènes comme ça et les ressortir au bon moment.
Alors là, on est dans les années 70, mais qu'est-ce qui vous a orienté vers la physique quantique ? Surtout, à quoi ressemble la physique quantique à cette époque ?
Alors, à l'université d'Orsay, on suivait la licence, l'ancienne licence. C'était avant la réforme qui en a appelé réforme des magistères ou des masters ou je ne sais plus. Bon, bref. Et alors, cette ancienne licence de physique, elle était vraiment excellente au point de vue formation classique. Électromagnétisme, optique, thermodynamique, j'avais des profs absolument formidables. Et puis, il y avait un premier cours de physique quantique qui était vraiment, je peux le dire avec le recul, extrêmement mauvais. Mais je pense qu'à l'époque, quasiment personne ne faisait un bon cours de physique quantique, sauf Claude Cohen-Tanoggi, qui, je pense, était à cette époque-là professeur à la faculté de Paris, et qui a publié un livre avec Bernard Dieu et Franck Lalloé, qui a montré comment il faut bien enseigner la mécanique quantique. Mais ce livre a été publié plus tard. Il a été publié pendant que j'étais coopérant au Cameroun. Et donc, j'avais conscience, pas autant qu'aujourd'hui, mais j'avais quand même conscience que la mécanique quantique, comme m'avait appris, n'était pas la vraie mécanique quantique. Et donc, quand j'ai entendu parler de ce livre qui avait été publié, je l'ai commandé et j'ai travaillé la physique quantique dans ce livre. Donc, vous me demandez pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais conscience que c'était une discipline intéressante et qu'on me l'avait mal enseigné.
Oui, c'est-à-dire que ce livre, dans votre parcours, il a comme une place de révélation. On demande souvent aux artistes leurs influences, leurs sources d'inspiration. On peut dire que ce livre, Mécanique quantique en 1973, ça c'est une pierre fondamentale dans votre parcours.
C'est fondamental, mais c'est pas une révélation. C'est plutôt un fondement, un socle de ma connaissance. La révélation, elle va venir lorsque je lirai l'article de John Bell, mais peut-être qu'on va en parler.
Ça, on ira aussi, hein, mais en effet, c'est en tout cas à cette époque-là que vous allez commencer à constituer votre sujet de thèse.
Alors, je vais constituer mon sujet de thèse au moment précis où je lis l'article de John Bell. Quand je reviens du Cameroun, j'ai la chance d'avoir un poste de on appelait maître assistant à l'époque, à l'ENS de Cachan. Et il se trouve que, dont je suis enseignant, là je dois préparer les étudiants à l'agrégation, ce qui est lourd, hein, parce qu'ils sont exigeants, ils veulent la réussir l'agrégation, donc c'est lourd. Mais en ce qui concerne la recherche, je pouvais la faire où je voulais. Et j'ai donc exploré un certain nombre de possibilités dans un certain nombre de laboratoires. Et Christian Imbert, jeune professeur de l'Institut d'Optique, m'a donné un dossier dans lequel il y avait l'article de John Bell. Et quand j'ai lu cet article, je crois que je peux utiliser la même expression que Nicolas Gisin à Genève, j'ai eu un véritable coup de foudre. Un coup de foudre pour le sujet.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
16h14 sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir tout au long de cette heure avec Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Avant de parler de votre entrée en scène dans l'histoire de la physique quantique, il faut faire un retour en arrière et quelques rappels sur les grands principes de la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est la meilleure théorie dont on dispose pour expliquer le comportement de la matière au niveau microscopique, à toute petite échelle. On se rend compte qu'il y a des propriétés un peu étranges, contre-intuitives, et l'un des phénomènes les plus intrigants de la physique quantique, c'est l'intrication. Historiquement, à l'aspect, quand est-ce que l'intrication quantique apparaît dans le champ de la mécanique quantique ?
Alors, je pense que c'est vraiment l'article d'Einstein, Podolsky et Rosen en 1935 qui l'a fait apparaître. Alors, je pense que les physiciens qui, auparavant, avaient fait des calculs, avaient sans doute écrit des états intriqués, mais sans réaliser que ça avait un caractère particulier. L'idée est que, la plupart du temps, ils décrivaient une seule particule. On décrit une seule particule par une fonction d'onde qui finalement se déplace dans notre espace, dans l'espace dans lequel nous vivons, l'espace trois dimensions plus le temps. Alors que quand on a deux particules, si on se réfère au principe de base de la physique quantique, on comprend qu'il faut les décrire dans un espace qui est un espace mathématique abstrait, qui est le produit tensoriel de l'espace de la première par l'espace de la deuxième. Bref, on se trouve dans un espace abstrait et c'est ce qui va être responsable des comportements bizarres que l'on a quand on a des particules intriquées. Parce que le point, c'est que c'est bien joli d'avoir une description dans un espace abstrait, mais là, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est écrite en exergue du livre de H.R. Peres, qui est un grand théoricien. Il écrit « Les expériences ne se passent pas dans un espace de Hilbert, elles se passent dans un vrai laboratoire. » Et donc, vous avez beau avoir une description mathématique sophistiquée, relativement clair à partir du moment où vous comprenez ces mathématiques, il y a un moment où vous voulez décrire les choses dans votre laboratoire. J'ai un laboratoire, j'ai un détecteur ici, j'en ai un là, ils sont séparés de 12 mètres, j'ai envie de décrire ce qui se passe dans mon laboratoire. Et c'est là qu'apparaissent les caractéristiques bizarres de l'intrication.
Alors sur ces caractéristiques bizarres, l'idée centrale de la mécanique quantique, c'est le principe de superposition, le principe de superposition des états. Est-ce qu'on peut un peu justement éclairer ces notions-là?
Oui, et on va les éclairer en reprenant la distinction que je fais entre ce qui se passe pour une particule et ce qui se passe pour plusieurs particules. Quand j'ai une seule particule, la superposition, ça veut dire que finalement, je dois la décrire par une onde, et une onde, elle se propage dans plusieurs endroits à la fois. Mais après tout, des ondes qui se propagent globalement dans plusieurs endroits de l'espace, on sait ce que ça veut dire, on n'a pas de mal à le comprendre. Alors qu'encore une fois, quand on a deux particules, la superposition dont vous parlez, on ne peut pas se la représenter dans notre espace. On ne peut se la représenter que dans l'espace abstrait. Ce que je veux dire, c'est que un certain état quantique de mon système des deux particules, je peux imaginer comment il est dans notre espace. L'autre état quantique, un deuxième état quantique, je peux imaginer comment il est dans notre espace. Mais quand je parle de superposition, c'est pas vraiment dans notre espace, la superposition. Elle est dans cet espace abstrait. Et donc, c'est très, très difficile à se représenter. Par contre, on sait parfaitement écrire les mathématiques. Et c'est tellement difficile à se représenter que, on va peut-être y venir, mais que quand on considère l'expérience de pensée qui dérive de la discussion par Einstein, Podolsky et Rosen, on est obligé d'admettre qu'il y a quelque chose qui se passe instantanément, plus vite que la lumière. Mais ça, c'est une sorte d'illusion parce qu'on insiste pour le voir dans notre espace. Mais n'empêche que il y a quelque chose, voilà.
Instantanément, c'est ça en effet le...
C'est bizarre, instantanément.
Et ça pour Einstein, c'est le...
C'était inacceptable pour Einstein. Et donc, peut-être que c'est le moment de parler un petit peu de quel était le problème d'Einstein, ou plutôt quelle était l'idée d'Einstein avec la physique quantique. Il faut que les choses soient claires, Einstein ne remettait absolument pas en cause la mécanique quantique, et il faut quand même insister sur le fait que de 1905 jusqu'à 1924, Einstein est probablement le physicien qui a le mieux compris les conséquences des idées quantiques, la révolution intellectuelle que ça représentait. Donc quand on dit Einstein quelquefois on entend Einstein a bien compris la relativité, mais la mécanique quantique, il n'avait rien compris. C'est totalement faux. Les articles qu'Einstein écrit sont lumineux jusqu'à ce que le formalisme soit développé en 1925 par Schrödinger, Heisenberg. Là, c'est vrai qu'il ne joue plus de rôle. Mais jusque-là, il a parfaitement compris les conséquences incroyables. Ah. Et donc, à partir de 1925, on a ce formalisme dont Born va donner une interprétation probabiliste. C'est-à-dire que, et ça c'est ce qui est admis aujourd'hui, mais c'était déjà le cas à partir de la fin des années 1920, c'est-à-dire qu'on sait dire, voilà, j'ai un objet quantique, je fais telle mesure dessus, et le résultat n'est pas certain. J'ai la probabilité 70% de trouver le résultat numéro 1 et 30% de trouver le résultat numéro 2. Et ça, ça ennuie beaucoup Einstein. Alors, c'est pas qu'Einstein n'aime pas les probabilités. L'un de ses articles les plus formidables, c'est un article de 1905 sur le mouvement brownien. Donc, il maîtrise parfaitement les probabilités. Mais il pense que les probabilités, c'est une commodité. Je m'explique, j'aime bien cet exemple. Ici, nous avons des molécules d'oxygène, d'azote dans la pièce où nous nous trouvons. Et si nous voulons décrire leur vitesse, nous allons décrire la distribution. Quelle est la probabilité d'avoir une vitesse comprise entre 300 mètres par seconde et 305 mètres par seconde? Quelle est la probabilité d'en avoir entre 305 et 310? On décrit ça par une loi de probabilité, mais c'est une commodité. On n'a aucun doute que chaque molécule, individuellement, a sa vitesse. Seulement, il y en a tellement que ce serait un travail de titan de vouloir décrire tout le monde dont on utilise la probabilité. Eh bien, Einstein, semble-t-il, pense que le fait que la mécanique quantique utilise des probabilités prouve que c'est une commodité, c'est une sorte de physique statistique d'un niveau inférieur à découvrir.
C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, si je comprends bien, vous m'arrêtez, si je me trompe, en mécanique quantique, c'est que le hasard intervient dans les mesures et ce qu'on appelle donc un indéterminisme de la mesure.
Oui, alors ce n'est pas le point clé, mais effectivement, ce hasard de la mécanique quantique joue un rôle fondamental. Par exemple, ça va être difficile de s'apesantir dessus, mais tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose qui a l'air d'être instantané, d'aller plus vite que la lumière. Eh bien, la raison fondamentale pourquoi on ne peut néanmoins pas l'utiliser pour envoyer un signal utilisable plus vite que la lumière, c'est précisément à cause de ce caractère fondamentalement aléatoire de la physique quantique. Les deux sont liés.
Alors Einstein cet autre physicien qui est donc le Danois Niels Bohr, en 1927, il y a donc ce débat fondamental entre les deux. Quel est justement le débat entre Einstein et Bohr?
Alors en 1927, donc Einstein a un programme, en quelque sorte, qui est de montrer que ce formalisme quantique qui s'exprime et qui nous donne des probabilités, en fait, il peut être complété par une structure sous-jacente dans laquelle les particules auraient des propriétés, c'est-à-dire leur vitesse et leur position seraient définies mieux que ce qui est dans le formalisme quantique. Et donc, il arrive avec un certain nombre de ce qu'on appelle des expériences de pensée, c'est-à-dire des expériences qu'on pourrait faire en principe, mais la technique de l'époque ne permet pas de les faire. Il arrive avec un certain nombre d'expériences de pensée, j'insiste, qui portent sur une seule particule, et en disant, ah ben, tu vois, Niels Bohr, la particule, elle a une position et une vitesse mieux déterminées que ce qui est permis par les relations de Heisenberg. Et à chaque fois, Niels Bohr peut le contrer et avec des arguments mathématiques, des arguments de théorie. Bon, donc, tout le monde sait qu'à la fin du congrès de 1927, Bohr a répliqué victorieusement à toutes les attaques d'Einstein. Et c'est ce qui fait qu'un certain nombre de physiciens ont pensé pendant longtemps que Bohr avait toujours répondu de façon correcte à Einstein. Mais je pense que ce n'est pas le cas, parce qu'en 1935, dans leur fameux article avec Podolsky et Rosen, Einstein, donc, s'intéresse maintenant, non pas à une particule, mais à deux particules, aux états intriqués. Et là, il pense arriver à démontrer que, effectivement, l'une des deux particules, au moins, a des caractéristiques qui sont mieux précisées, mieux déterminées que ce qui est autorisé par les relations de Heisenberg. Et Bohr va évidemment répondre, donc c'est formidable, on a deux articles à 3 mois d'intervalle ou 4 mois d'intervalle dans la Physical Review qui portent le même titre, est-ce que la mécanique quantique peut être considérée complète? Mais clairement l'article d'Einstein, Podolsky et Rosen conclut non, elle ne peut pas être considérée complète, et Bohr dit si, si. Mais je veux insister sur le fait que, à la différence du raisonnement de 1927, c'est essentiellement sur des arguments philosophiques que Bohr base sa réponse et non pas sur une démonstration, un calcul.
Oui, c'est ça. En 1935, Podolsky, Einstein et Rosen publient donc un article scientifique, le paradoxe EPR, pour Einstein, Podolsky et Rosen, qui présente un paradoxe, une expérience de pensée, qui a été considérée par certains comme un orage de la physique du XXe siècle. Écoutons notre archive de 1980 et les mots de Jean-Pierre Vigier, physicien au CNRS.
Bohr affirmait, contrairement à Einstein, premièrement, que l'observateur jouait un rôle irréductible et inanalysable dans l'analyse des expériences. Il affirmait que la théorie des quantas telle qu'elle s'était développée représentait une limite ultime de la connaissance. Il affirmait, par exemple, une grande discussion entre Einstein et Bohr portait sur la nature du hasard. Einstein disait, le hasard, c'est tout simplement le résultat de causes très compliquées, non corrélées, etc., qui fait que j'observe des distributions statistiques qui résultent d'une causalité plus profonde.
Que j'ignore,
mais que je peux découvrir. Et c'était ça le point. Einstein affirmait qu'il n'y avait pas de barrière au progrès de la connaissance, alors que Bohr affirmait que la statistique...
C'est du temps et de l'espace.
C'est pas une barrière, ça, excusez-moi du peu. C'est-à-dire qu'on peut faire des modèles parfaitement causaux du comportement, par exemple, d'une partie de roulette. Je peux très bien, si je me donne toutes les conditions initiales, etc., prédire la distribution des billes à la sortie d'un jeu de roulette. Alors que pour la conception du hasard de Bohr et de ses successeurs, donc Stadtberger précisément, c'était que le hasard est irréductible. Il n'y a rien derrière le hasard fondamental. Et alors, le débat s'est poursuivi pendant de longues années. Einstein a publié un article célèbre en 1935, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen. Et subitement, on arrive au point où on va pouvoir trancher. Qui aura raison, de Bohr ou d'Einstein?
Alain Aspect, une réaction à cette archive?
Il dit les choses telles qu'elles sont. Je dois vous avouer que beaucoup de gens utilisent le mot paradoxe. Je n'aime pas bien le mot paradoxe. Ce que j'aime bien, c'est parler de la situation. Einstein, Podolsky, Rosen, ils ont découvert une situation nouvelle dans laquelle on a deux particules intriquées et ils en tirent les conséquences.
C'est-à-dire que dans ce paradoxe, la seule façon d'éviter un conflit entre mécanique quantique et relativité restreinte, c'est de supposer que la formulation de la mécanique quantique est donc incomplète et qu'il existerait des variables cachées, inconnues des physiciens, c'est bien ça?
Oui, un peu comme ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire chaque molécule a sa propre vitesse. Eh bien, effectivement, la conclusion de Einstein, Podolsky et Rosen, c'est que pour comprendre les corrélations très fortes qui sont prédites par la mécanique quantique, il faut introduire des variables cachées. Alors, il faut préciser ici, attention, c'est que l'expérience de pensée Einstein, Podolsky et Rosen porte sur des variables continues, la vitesse et la position, et on va faire un grand saut de 30 ans, arriver à John Bell, et la force de l'expérience de John Bell, c'est qu'elle porte sur des variables discrètes, c'est-à-dire des variables qui ne peuvent donner que deux valeurs. Et il faudra avoir recours à des observables discrètes, dichotomiques, pour voir le véritable conflit entre le point de vue d'Einstein et le point de vue de Bohr. Il faut insister sur le fait que, dans ces discussions, ni Einstein ni Bohr n'avaient le moindre doute sur le fait que le formalisme mathématique quantique donnait les bons résultats. Aucun des deux ne savait que si on adoptait le point de vue d'Einstein, à un moment donné, on allait être en conflit avec les prévisions statistiques de la physique quantique. C'est au niveau de l'interprétation. Bohr disait, c'est pas la peine d'aller regarder en dessous, et d'ailleurs, si vous allez y regarder, vous allez arriver à une auto-contradiction, alors qu'Einstein disait, si, si, pour comprendre ces corrélations, pour comprendre le caractère aléatoire, il faut introduire des variables en dessous, encore une fois, comme chaque vitesse de chaque molécule dans la pièce.
Pendant 30 ans, il ne se passe rien jusqu'en 1964, où John Bell, physicien irlandais, démontre qu'il est possible d'envisager des expériences, que ce débat épistémologique entre Bohr et Einstein pourrait être tranché au laboratoire.
Oui, alors ça, c'est stupéfiant. Moi, je ne suis pas un expert, mais je ne connais aucun autre exemple où un débat philosophique peut être tranché par une expérience de physique. Alors, il faut quand même préciser qu'il y a eu un progrès entre-temps qui est réalisé par David Bohm. David Bohm est un physicien qui a fait une transposition de l'expérience d'Einstein, Podolsky et Rosen, transposition, comme je vous le disais tout à l'heure, en utilisant des observables qui ne peuvent donner, chacune d'entre elles ne peut donner que deux résultats, qu'on peut appeler plus un, moins un, ce que vous voulez. Et donc, c'est vraiment avec cette expérience transposée par Bohm que Bell va faire la découverte que si on suit jusqu'au bout le point de vue d'Einstein, on peut établir des inégalités, les fameuses inégalités de Bell, qui, dans certains cas extrêmement rares, sont en conflit avec les prévisions du formalisme quantique standard. Donc, entre guillemets, il n'y a qu'à faire l'expérience. Hein, et puis, on verra bien qui a raison des deux.
C'est-à-dire que le physicien John Bell en établit donc une liste d'inégalités au sens mathématique du terme. Est-ce que je peux vous demander, Alain Aspect, de nous éclairer un peu plus sur ces inégalités de Bell ?
C'est très difficile.
C'est très difficile.
C'est très difficile parce que toutes les corrélations auxquelles on peut penser, tous les exemples que je peux vous donner, vont toutes obéir aux inégalités de Bell. Il faut vraiment aller se mettre dans des situations extrêmement rares, extrêmement particulières, pour s'apercevoir mathématiquement que la forme mathématique de la prévision quantique viole un peu l'inégalité de Bell. Je crois que je peux plutôt vous parler, au contraire, des corrélations qui, elles, obéissent automatiquement aux inégalités de Bell, mais j'insiste sur le fait que c'est l'immense majorité des corrélations que nous observons. Vous prenez deux jumeaux, des jumeaux vrais, homozygotes. Il se trouve qu'ils sont séparés à la naissance, l'un va être élevé en Australie, l'autre aux États-Unis, et beaucoup plus tard, quand ils ont 20 ans ou 30 ans, vous regardez la couleur de leurs yeux, un peu considéré, c'est une mesure, est-ce que les yeux sont clairs ou foncés ? Et vous apercevez qu'ils ont tous les deux soit les yeux clairs, soit les yeux foncés. Vous regardez, ont-ils telle ou telle maladie de nature génétique ? Eh bien, si l'un a la maladie, l'autre a la maladie. Si le premier ne l'a pas, le deuxième ne l'a pas. Ce sont des corrélations très fortes, mais on n'a aucun problème à les expliquer par le fait qu'ils ont le même jeu de chromosomes. D'accord ? Eh bien, les circonstances dans lesquelles vous avez violation des inégalités de Bell, vous ne pouvez pas trouver de chromosomes. Vous ne pouvez pas trouver une propriété commune qui permet d'expliquer cette corrélation. D'où l'idée de non-localité, une façon de comprendre les choses, c'est de dire, eh bien, quand je fais la mesure des yeux du premier, je vais trouver soit bleu, soit noir. Jusqu'au moment, je ne savais rien, je ne le savais pas, il n'y avait aucune information préalable qui me disait bleu ou noir, mais dans ce cas-là, si c'était quantique, on aurait soit bleu, soit noir, hasard quantique complet, mais au moment où je fais la mesure, je trouve bleu, et instantanément l'autre, à l'autre bout de la Terre, ils sont bleus aussi. Alors, attention, ce n'est qu'une façon d'exprimer les choses, mais c'est ça que nous dit le formalisme quantique. Et donc, vous voyez bien que j'ai beaucoup de mal à vous expliquer comment ce formalisme arrive à violer les inégalités de Bell. Par contre, je peux vous dire ce qu'il fait, il n'autorise pas à décrire la corrélation par des chromosomes, par des propriétés communes.
Alors, il faudra attendre encore un peu de temps pour que les physiciens comprennent toute l'importance des travaux de John Bell. Il faudra attendre 1972 et la première expérience de John Closer, une expérience pionnière, puis les vôtres. Mais on vous raconte tout après cette pause musicale. To the stage right in front of your eyes. What? Young Einstein, he's about to go live. So punch your ticket and move up close. Pay special attention and take some notes. He's a two-hand band when he's on the cut. Yep. And that's all we need. What? Backing us up. He's got the rhythm and the quickness and the focus and the skill. That's growing like grass with the mass appeal. He doesn't do it for the money and not for the fame. He does it for the people cause he loves to entertain. So step into the stage right in front of your eyes. What? Young Einstein is about to go live. Young Einstein
on the Rio de Janeiro. Einstein's got fans that'll stand in line to see him speak with his hands like a pantomime. Yup, all packed into a sold-out show, yelling, go Einstein, go Einstein, go. He doesn't do it for the money.
Ugly Duckling, Einstein on stage à 16h34 sur France Culture, car nous parlons d'intrication quantique avec Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Alors nous venons de parler dans un premier temps du paradoxe EPR, des inégalités de Bell. En 1974, Alain Aspect, vous faites la découverte du texte court de John Bell qui montre que le débat entre Bohr et Einstein pourrait être tranché par des expériences. Cette lecture, vous nous avez dit que c'est un coup de foudre et vous vous procurez aussi les travaux, les premières expériences, les premiers résultats de l'expérience de John Clauser.
Oui, absolument. J'ai même la thèse de Stuart Friedman qui a fait sa thèse avec John Clauser sur ce sujet. Donc, il y a absolument tous les détails. Donc, je peux m'apercevoir que c'est une expérience magnifique compte tenu de la technologie de l'époque. Et donc, j'en conclus aussi. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une deuxième expérience qui a été faite à Harvard. Celle de Clauser est à Berkeley. Il y a une deuxième expérience à Harvard. Et alors que l'expérience de Clauser montre un résultat en très bon accord avec la mécanique quantique et donc qui viole les inégalités de Bell, celle d'Harvard trouve le résultat opposé. Donc, on peut se dire, il n'y a qu'à se lancer pour trancher. Mais j'ai conscience que je vais démarrer à zéro, sans aucune connaissance a priori des techniques nécessaires. Il n'y a pas l'expérience, l'expertise pour faire ça dans l'institut où je suis. Donc, forcément, ça va prendre du temps. Donc, je suis persuadé que quelqu'un va trancher entre les deux. Et donc, je me dis, est-ce qu'il y a une expérience plus avancée que l'on peut faire? Et la réponse est encore une fois dans le papier de Bell. C'est-à-dire que Bell, dans la conclusion de son papier, dit que l'expérience qu'il faudrait vraiment faire pour s'attaquer, je dirais, ou je ne sais pas si le mot est exact, pour mettre en jeu la conception du monde d'Einstein jusqu'au bout, et donc le fait que rien ne peut aller plus vite que la lumière, il faudrait être capable de changer l'orientation des appareils de mesure alors que les photons sont partis de la source et sont en train de se déplacer vers l'appareil de mesure. Donc il faudrait être capable de changer les orientations en quelques nanosecondes. Et ça, évidemment, ça paraît extrêmement compliqué. Mais je vais réfléchir. On l'a dit tout à l'heure, j'ai fait une thèse au troisième cycle en optique. Je connais extrêmement bien l'optique. Et puis, il y a la fameuse corde de Meld de M. Hirsch. Je mets tout ça ensemble et j'ai l'idée qu'avec une interaction entre une onde acoustique stationnaire et la lumière, je vais pouvoir réaliser l'aiguillage qui va me permettre d'aiguiller la lumière soit vers un polariseur dans une première orientation, soit dans un deuxième polariseur avec une autre orientation. Et si l'aiguillage est assez rapide, c'est équivalent à un seul polariseur qui passe de la première orientation à la deuxième et qui revient à la première.
Ouais, et on arrive donc à l'expérience d'Orsay entre 1980 et 1982. À ce moment-là, vous améliorez les dispositifs expérimentaux. Comment vous vous y prenez?
C'est presque une dizaine d'années après l'expérience de Clauser et Friedman. Donc, les techniques évoluent très vite. Par exemple, les techniques laser. Clauser et Friedman n'excitaient pas leurs atomes avec un laser. Et donc, le rendement était extrêmement faible. Il y avait des tas de défauts. Leur source avait le mérite d'exister, mais elle émettait très peu de paires de photons intriqués, donc il fallait accumuler les données pendant longtemps, ce qui est toujours un problème en physique expérimentale. Et puis, il n'était pas question, avec leur expérience, de changer les orientations. Donc, moi, à partir de 1974, je vais développer une source de photons intriqués totalement nouvelle, où je vais, en utilisant deux lasers, arriver à exciter les atomes dans l'état précis où l'atome n'a plus le choix, il ne peut que me renvoyer une paire de photons intriqués. Je vais donc avoir une source quasiment de rêve, si on peut dire, sauf que ça prenait une pièce entière. J'avais trois lasers, un jet atomique, mais ensuite, les performances de la source étaient absolument géniales, sans commune mesure avec ce qui existait, et donc à partir de là, j'ai commencé à refaire l'expérience de Clauser et Friedman, avec un bien meilleur, rapport signal sur bruit, donc une précision bien meilleure. Ensuite, on a fait une deuxième expérience. J'ai déjà insisté sur le fait qu'il fallait des mesures qui vous donnent un résultat plus 1 et un résultat moins 1. Mais en réalité, dans l'expérience de Clauser et Friedman, on avait le résultat plus 1, mais on n'avait pas le résultat moins 1. Le résultat moins 1 était perdu. Et donc, il y a un truc pour se sortir de ça. Vous faites l'expérience avec le polariseur, vous avez les résultats plus 1. Vous enlevez le polariseur et vous avez la somme des deux. Donc, si vous faites la différence, c'est le moins 1. Mais c'est qu'à moitié satisfaisant. Il y a un tas de problèmes avec ça. Donc, en 1982, j'arrive à avoir des cubes séparateurs de polarisation qui me donnent et plus 1 et moins 1. Et là, Philippe Grangier me rejoint pour faire sa thèse de troisième cycle et on fait des mesures d'une précision inouïe. Et la mécanique quantique gagne à coup sûr. On viole les auditeurs qui comprennent le langage des barres d'erreur, on viole les inégalités de Bell par plus de 40 barres d'erreur, dont il n'y a pas photo, comme on dit.
La théorie quantique est sauvée.
Et puis, enfin, on va faire l'expérience avec des polariseurs mobiles.
Alors, cette fameuse expérience de 1982, vous l'avez donc réalisée en collaboration avec Jean Dalibard, Philippe Grangier et Gérard Roger. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre reportage du jour avec vous, Noémie Maguet de Saint-Julfranc. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Alors, vous avez rencontré l'un de ces expérimentateurs, le célèbre physicien Jean Dalibard.
Ah là là.
Oui, je l'ai rencontré avec Natacha Demoule de l'équipe et il m'a expliqué entre autres que pour comprendre le paradoxe EPR de l'époque, il fallait donc revenir, comme on le disait tout à l'heure, à un ingrédient essentiel de la physique quantique qui est le principe de superposition. Ce principe dit qu'un objet, quel qu'il soit, peut être dans une superposition de deux états radicalement différents l'un de l'autre. Et Einstein, Podolsky et Rosen ont fait passer ce principe dans un domaine plus abstrait, c'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur une seule particule, ils ont regardé des systèmes de deux particules. Et ils se sont retrouvés dans une situation très paradoxale qui est que l'état des deux sous-systèmes, prenons deux photons par exemple, se décrit par un et quantique. Autrement dit, les deux photons sont dans un état corrélé et en même temps, ils sont toujours corrélés mais dans un autre état. Et dans les années 60, Bell a montré que cette description du monde à la Einstein était bien en conflit avec certaines prédictions quantiques et la balle s'est alors retrouvée dans le camp des expérimentateurs. Et c'est là donc que les travaux d'Alain Aspect sont entrés dans l'histoire puisqu'il a résolu cette expérience de pensée.
Pour le tester avec des photons, il a fallu réaliser ce et quantique. Il a fallu avoir une paire de photons qui étaient intriqués, au sens où je ne savais pas dans quel état était le photon que vous preniez, le photon que j'envoyais, mais je savais qu'il y avait une corrélation. C'est Clauser qui a fait la première expérience. L'idée a été d'utiliser ce qu'on appelle une cascade atomique, c'est-à-dire on met un atome, en l'occurrence du calcium, dans un état très excité, et cet atome va retomber vers son état fondamental en émettant deux photons. Et ensuite, il faut faire différentes mesures. En l'occurrence, il faut mesurer la polarisation du photon, c'est-à-dire comment est-ce que le champ électromagnétique du photon, qui est ce grain de lumière, est orienté. Donc, on produit une paire de photons dans cette cascade atomique que j'ai décrite. Un photon part, disons, vers la gauche, l'autre photon part vers la droite. Et puis, ces photons vont traverser chacun un polariseur. Et ensuite, on va détecter si le photon ou non est transmis par le polariseur. Et ensuite, on va tourner les polariseurs pour faire différentes mesures avec différentes orientations des polariseurs. Et c'est en mettant ensemble tous les résultats avec les différentes orientations des polariseurs que l'on voit si l'inégalité de Bell est violée, auquel cas le monde d'Einstein ne peut pas exister, ou alors si elle est satisfaite. Et on se dit, peut-être que l'espoir d'Einstein, on va réussir à le remplir. Et en l'occurrence, l'inégalité de Bell a été violée. Donc le monde d'Einstein ne pourra pas décrire notre univers.
Lorsque l'atome qui est excité va émettre les photons intriqués, comment sait-on que les deux photons n'ont pas déjà le résultat de leur polarisation qui est en fait déjà présent avant même que l'un soit intercepté par le polarisateur ?
Alors la réponse, c'est toujours ce et quantique par opposition au ou classique. C'est-à-dire que le système des deux photons est dans la superposition photon 1 polarisation A, photon 2 polarisation B et photon 1 polarisation B, photon 2 polarisation A. Et tout est là, c'est ce et quantique qu'il s'agit de préserver pour violer les unités de Bell. La non-localité est toute dans ce et.
Et comment est-ce qu'on sait que les photons ne communiquent pas entre eux ?
Donc ça, c'est une très bonne question. Et c'est là, je dirais, l'apport, au moins d'une des expériences qu'a fait Alain en 1982. C'est-à-dire que si les polariseurs sont dans un état qui est prédéfini au moment où les photons sont émis, on peut toujours se dire, oui, mais tout est décidé au départ, les polariseurs sont dans un état donné, donc peut-être que les photons, en communiquant entre eux par une manière qu'on ne comprend pas, vont se dire, moi j'ai été analysé avec telle direction, débrouille-toi pour faire la même chose que moi. En revanche, dans l'expérience d'Alain, eh bien, l'état du polariseur n'était décidé que bien après l'émission du photon. Donc ça éliminait complètement cette possibilité de communication à distance entre les photons. C'était quand même un grand moment quand Alain a obtenu son résultat. Enfin, je me souviens du titre du Monde, « Dieu joue probablement au dé ». Donc je dirais dans les premières années, ça a vraiment été un progrès conceptuel. C'est-à-dire qu'enfin, on avait tranché dans ce débat qui était resté un débat d'idées depuis les débuts de la mécanique quantique. L'idée qu'on pouvait en faire quelque chose qui était plus du côté application est arrivée progressivement. C'est venu, dans les années 90, avec l'idée que, par exemple, ces paires de photons intriqués, donc qui violaient les inégalités de Bell, eh bien, on pouvait les utiliser pour faire ce qu'on appelle de la cryptographie quantique. C'est un moyen de transmettre un message entre un partenaire qu'on va appeler Alice et un destinataire qu'on va appeler Bob, en étant certain qu'on n'a pas été écouté. Si on a été écouté, ben évidemment, on arrête de transmettre le message. Donc ça repose directement sur l'intrication quantique. Et c'est apparu dans les années 90-95. Tout comme la possibilité de faire des ordinateurs quantiques, hypothétiques jusqu'à ce jour, qui permettraient de faire des calculs beaucoup plus rapides que les ordinateurs classiques.
Pourquoi cela ?
Un processeur en informatique, ça fonctionne de manière suivante. On a un registre d'entrée dans lequel on met les différents bits d'information à 0 ou à 1. Ensuite, il y a le processeur qui manipule tous ces bits d'information et puis il sort un résultat. Le principe d'un ordinateur quantique, pour le dire vite, c'est que au lieu de mettre les différents bits dans l'état 0 ou 1, chacun des bits d'information est mis à la fois dans l'état 0 et 1. Donc en quelque sorte, le processeur quantique va faire tous les calculs en parallèle, puisque tous les éléments à l'entrée sont dans la superposition de deux états qui peuvent être 0 et 1. Alors évidemment, en sortie, on ne va lire qu'un seul des résultats. Et là, c'est tout le savoir-faire des gens qui écrivent des algorithmes, d'adapter leurs algorithmes au monde quantique pour que, bien qu'on ne lise qu'un résultat, le fait qu'à l'entrée, il y ait toutes les entrées possibles, permettent d'accélérer les calculs. Sur le plan conceptuel, je dirais qu'il n'y a plus de débat maintenant. C'est-à-dire qu'on sait que le monde dont rêvait Einstein, qui faisait une belle part à la réalité de deux objets loin l'un de l'autre, eh bien cet espoir d'Einstein est déçu. Maintenant, est-ce qu'on a fini d'explorer les conséquences de ce principe de superposition appliqué à un grand nombre de particules ? Là, je dirais non. Et le grand défi maintenant, c'est d'essayer de pousser cette intrication quantique le plus loin possible. L'ordinateur quantique en est un exemple. On rêve d'avoir plein de bits d'information dans un ordinateur, dans un état massivement intriqué. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le maintenir, ce quantique. Ce quantique, avec beaucoup de particules, il est très fragile. Il suffit de petites perturbations pour le transformer en banal ou classique. Et là, à ce moment-là, tout est perdu. Donc, je dirais, les défis maintenant, c'est de maintenir ce quantique le plus longtemps possible, avec le plus de particules possible. Alors, les moyens pour faire ça, ça dépend beaucoup des plateformes qu'on étudie. Il y a des gens qui utilisent des atomes froids, donc on refroidit beaucoup la matière pour éliminer tout ce qui peut être agitation thermique. Il y a des gens qui développent des codes correcteurs d'erreurs pour se dire, certes, il y aura des erreurs, mais peut-être que je vais pouvoir corriger ces erreurs sans trop perturber le système, donc en lui maintenant son caractère quantique. Il y a des gens qui étudient les plateformes de matière condensée, là aussi très froide. Il y a beaucoup de plateformes étudiées en ce moment, en espérant qu'il y en a une qui débouchera. S'il y a une question que je peux poser à Alain, dans le contexte de cette intrication quantique, c'est... Est-ce qu'il pense que nous verrons un jour un ordinateur quantique universel ? C'est-à-dire que, est-ce que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, est-ce qu'il pense que cet ordinateur sera réalisé ?
Ah, une réponse à l'inspect, cette Alors, question posée par Jean Daliba.
Malheureusement, je pense que 30 ans, c'est une perspective un peu trop longue pour moi, vu mon âge. Et donc, je ne pense pas. Moi, ma perspective, c'est plutôt 10 ans ou 15 ans. Je ne pense pas qu'on verra un ordinateur quantique universel à cette échéance, mais il y a deux remarques que l'on peut faire. D'abord, on n'est jamais à l'abri d'une découverte qui nous... Il faut savoir que cet espace, dit espace de Hilbert, dans lequel on a les qubits intriqués, les bits quantiques intriqués, est absolument gigantesque. Et on ne peut pas s'interdire... l'idée que peut-être il y a un sous-espace là-dedans dans lequel la décohérence, ce dont parle Jean Dalibard, serait beaucoup moins nocive. Si on trouvait cela, alors on pourrait remettre en selle à court terme l'ordinateur quantique universel. Mais il y a une deuxième chose que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les gens qui intriquent de nombreux qubits, par exemple Antoine Broès à l'Institut d'Optique, arrivent à en avoir jusqu'à 200 qui sont intriqués. Certes, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont quand même très bons. Et ces systèmes, qui ont dit, c'est de sorte d'ordinateurs quantiques un peu dégradés, mais on commence à être au moment où ces systèmes, bien qu'ils soient dégradés, sont plus puissants que les plus puissants des ordinateurs classiques. Donc, pour répondre à Jean, je crois qu'on va avoir des résultats intéressants avec les ordinateurs quantiques dont nous disposerons dans les quelques années qui viennent. L'ordinateur quantique universel, ce serait une immense surprise.
Il faut rappeler quand même que l'ingrédient majeur de cette seconde révolution quantique, c'est l'intrication, et on peut dire à l'inspect que vos travaux ont contribué à ouvrir cette voie.
Oui, il n'y a aucun doute. Par exemple, Jean a mentionné la cryptographie quantique. Eh bien, Arthur Eckert a inventé une méthode de cryptographie quantique, me dit-il, en regardant le compte rendu de mon expérience. Je trouve que c'est à son idée absolument fascinante. L'idée est de donner à deux partenaires, Alice et Bob, qui sont loin l'un de l'autre, deux suites absolument identiques et aléatoires de 0 et de 1. Et le point, et donc il y a un espion qui essaye d'en prendre connaissance. Et le point, c'est que si on croit vraiment à la physique quantique, et il faut y croire puisqu'on viole les inégalités de Bell, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça sera 0 ou 1. Donc pour l'espion qui est dans l'espace intermédiaire, il n'y a rien à espionner. On est toujours dans une superposition de 0 et 1, et c'est au dernier moment que si Alice a 0, Bob aura 0. Je trouve cette idée fascinante, et Arthur Eckert dit que c'est en prenant connaissance de mon expérience qu'il l'a eue.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
h 50 sur France Culture, nous entretenons avec Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Nous venons de parler de l'importance de vos travaux, de leurs applications. Alors, lors de votre nomination, Alain Aspect, on a beaucoup vu dans le traitement médiatique qu'il en a été fait, l'intrication quantique, oh là là, on n'y comprend rien. Comment ça vous fait réagir?
Eh bien, je n'aime pas que l'on dise « on n'y comprend rien ». On n'y comprend rien si on ne veut pas se donner la peine d'essayer de comprendre. Je veux dire par là que même les gens qui n'ont pas une forte éducation scientifique, mathématique, en sciences physiques également, ces gens-là peuvent parfaitement comprendre, et aujourd'hui on a la chance d'avoir d'excellentes vidéos. Par exemple, il y a une vidéo de David Loipre sur la célèbre série Science étonnante. Et bien sûr, les inégalités de Bell, c'est absolument formidable. Je suis admiratif de ce qu'il arrive à faire, et je crois que tout honnête homme ou honnête femme, je veux dire quelqu'un qui est capable de raisonner, même s'il n'a pas une formation de physicien, s'il suit attentivement la vidéo de David Loipre, il peut comprendre de quoi il s'agit. Donc, je n'aime pas qu'on dise « on n'y comprend rien ». On n'y comprend rien parce qu'on ne fait pas d'efforts. Mais si on ne fait pas d'efforts, on ne comprend rien aux échecs non plus. Pour comprendre quelque chose aux échecs, il faut s'appliquer, il faut se concentrer.
La vidéo de Science étonnante, qui sont en effet des petits bijoux de vulgarisation scientifique, on vient de vous poster le lien sur le fil Twitter @sciencecqfd. À l'inspect, c'est ma toute dernière question, malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous auriez des conseils pour les jeunes physiciens ou même pour les jeunes chercheurs tout court?
De suivre leur goût. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de travailler sur ce sujet et j'ai persisté à travailler sur ce sujet, même quand on me disait qu'il n'avait pas d'intérêt. Je crois que si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Alors, il ne faut pas s'obstiner 30 ans. Si au bout de quelques années, on s'aperçoit que ça ne débouche sur rien, c'est peut-être une bonne idée de changer de sujet. Mais il faut aller sur le sujet dont on a envie, a priori.
Eh bien, merci beaucoup Alain Aspect pour cette interview, pour vos recommandations. Comme chaque jour, il est temps de retrouver un autre physicien qui a beaucoup écrit sur vos travaux, Étienne Klein. On le retrouve pour sa chronique « Le pourquoi du comment ».
La fission nucléaire, une affaire de femmes. Premier épisode. Il existe au moins une situation historique dans laquelle ce sont des femmes, deux en l'occurrence, qui comprirent indépendamment l'une de l'autre et à 4 ans d'intervalle ce qu'aucun homme n'était parvenu à concevoir. Nous sommes à Rome en 1934. Le physicien Enrico Fermi et ses collaborateurs bombardent avec des neutrons une cible constituée d'uranium, l'élément chimique le plus lourd connu à cette époque. Ils provoquent ainsi des réactions que l'on qualifiera plus tard de fission nucléaire. Mais eux sont à mille lieues d'imaginer qu'un tel phénomène soit possible. Ils font en somme de la fission nucléaire à leur insu. Car pour eux, Il va de soi que les chocs des neutrons sur les noyaux d'uranium ne peuvent engendrer que deux types de réactions. La première possibilité serait que les noyaux d'uranium percutés par un neutron émettent un petit nombre de protons et de neutrons, comme cela avait été déjà observé en irradiant d'autres types de cibles constituées de différents métaux. Avec, pour résultat des courses, la transformation de ces atomes d'uranium en atomes à peine moins lourds qu'eux. La seconde possibilité, qu'ils ont elle aussi constatée lors d'expériences précédentes, serait que les atomes d'uranium absorbent l'un des neutrons qui les aura frappés. Nos physiciens effectuent donc des analyses chimiques très sommaires du gros bloc d'uranium irradié, afin d'y détecter les éléments nouveaux de masse légèrement inférieure à celle de l'uranium qui aurait pu y apparaître. Ils n'en trouvent aucun. La seule explication qui demeure possible, raisonne alors Enrico Fermi, consiste à dire que le noyau d'uranium 238, constitué de 92 protons et de 146 neutrons, aura peut-être absorbé le neutron qu'il a heurté, formant ainsi un noyau d'uranium 239. Le neutron absorbé se transforme ensuite en proton par radioactivité bêta, ce qui aboutit finalement à un noyau contenant 93 protons. Enrico Fermi se demande donc s'il n'a pas produit un nouvel atome encore jamais observé sur Terre, le premier élément transuranien, de numéro atomique 93, encore plus lourd que l'uranium. Bien qu'encore hypothétique, cette découverte est aussitôt claironnée dans tous les journaux d'Italie et d'ailleurs, au grand dam d'Enrico Fermi. Elle fait l'effet d'une bombe, au sens figuré, du moins pour un temps, et elle contribuera à l'attribution du prix Nobel de physique 1938 à Enrico Fermi, en récompense, dit le communiqué, de sa démonstration de l'existence de nouveaux éléments radioactifs produits par bombardement de neutrons. C'était en vérité vendre un peu rapidement la peau de l'ours. Ida Nodak, brillante chimiste surnommée la Marie Curie allemande, envisage quant à elle une autre interprétation tout à fait différente, qui n'est encore venue à l'esprit de personne. Certains noyaux d'uranium frappés par des neutrons se seraient bel et bien fragmentés, c'est-à-dire ce serait comme scindé en noyaux beaucoup plus légers. À la lecture de l'article d'Enrico Fermi, cette chimiste aguerrie a en effet tout de suite entrevu les défauts et les lacunes des analyses chimiques effectuées à la va-vite par les physiciens italiens. Avant de proclamer qu'ils avaient produit l'élément 93, ils auraient dû comparer tous les éléments présents dans la cible après irradiation à tous les éléments chimiques connus, sans se contenter des plus proches voisins de l'uranium dans le tableau périodique. Dans un court article de 2 pages, Ida Nodak fait part de son hypothèse. Mais ni Fermi ni ses collaborateurs ne la prennent au sérieux. Le phénomène qu'elle envisage n'a aucun fondement théorique, ce qui est vrai à l'époque, il leur semble parfaitement antinaturel, donc impossible. En vérité, aucun de ces messieurs n'a envisagé une seconde que de tout petits neutrons de faible vitesse venant caresser de gros noyaux d'uranium, puissent les casser en plusieurs noyaux beaucoup plus légers. Une telle disproportion entre la cause et l'effet était pour eux proprement inconcevable. Cette réaction proche du mépris découragea peut-être Ida Nodak, qui ne tenta elle-même aucune expérience pour vérifier son hypothèse, alors même qu'elle était experte en matière d'analyse chimique. Ensuite, l'histoire se mit à bégayer, ainsi que nous le verrons une prochaine fois en espérant ne pas trop bégayer nous-mêmes.
Merci Étienne Klein pour votre chronique et merci à toutes et tous pour votre écoute. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Étienne, Garance Préma Agnolo, Natacha Demoule, Clémence Alézard. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Grégory Vallon. Vous pouvez nous podcaster sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Et souvenez-vous, rien n'est établi.